Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
Squat, droite, gauche, droite, sur les zones pour mon bla bla bla. On y croit, nature au parti. Life de Rosemont, Arthur au Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxer et podcast. Le temps c'est de parler, bienvenue sur le podcast.
And the new
cette édition du podcast Laurent s'écoute parler, saison 2, vous est présentée grâce à nos fiers commanditaires chez Option Notaire et Farley Avocat. Grâce à eux, Laurent n'est pas tout seul à s'écouter parler. Vas-y Laurent, on t'écoute.
En direct d'un appartement mal entretenu de Rosemont, Montréal, pas parce que les propriétaires l'entretiennent mal, là, c'est parce que c'est moi qui fais pas attention. C'est l'épisode numéro 65 de Laurent s'écoute parler, ton podcast préféré, et chronique Marie-Pierre Houle, chronique où je raconte ma semaine. Je vous dirais que c'est ma semaine où tout a mal été. C'est des mauvaises nouvelles, des catastrophes, des drames. Ça va très mal dans Rosemont et ça va très mal dans ma vie personnelle. Toutefois, on n'en est pas au premier compte de 8 au plancher. On va se relever et on va revenir plus fort. Aujourd'hui, je me suis levé un matin, on est dimanche le... Ça doit être le 15 ou le 16, là, ou le 14 peut-être. Dimanche le 14 mars, et puis là je me suis levé un matin. Tout va mal, il neige dehors. J'ai mal à la tête, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au ventre. J'étais allé prendre une marche, puis j'ai failli vomir ma toast au beurre de peanut. Ok, je sais pas ce que j'ai, mais je passerai pas les tests pour m'acheter une assurance vie à la Greenwich Union, comme quand on était jeune à la télévision. Ça va mettre fin à la chronique Marie-Pierre Houle. Quand ça ira mieux, je vais vous le dire. Et cette semaine, je vous conseille d'aller tout de suite écouter le podcast Poulain Tremblay, où on a reçu Yvon Michel. Et là, je vous le dis, là, ça a failli mettre fin à l'amitié entre moi et Vincent Tremblay. Okay? C'est que maintenant, j'ai tellement travaillé l'année passée que je prends tous les vendredis de congé jusqu'à temps que ma banque soit à zéro. Et le pauvre Vincent m'a fait confiance pour programmer l'émission spéciale avec Yvon Michel. Puis Yvon Michel, c'est le roi de la cote d'écoute. À chaque fois qu'on a Yvon Michel, là, on pèle les cotes d'écoute. Puis je vous le dis, là, on a plus de cotes d'écoute que TVA quand Yvon Michel est là. Mais j'ai programmé le tout et ça n'a pas fonctionné. Okay? Donc, on recevait Yvon Michel sur ma page personnelle de Laurent Poulain sur Boxeret, sur Facebook, au lieu de recevoir Yvon Michel sur Boxing Town Québec. Okay? Puis sur la page du groupe Yvon Michel, qui là ne pouvait plus partager parce que ça partait de ma page personnelle où j'ai mis certaines choses privées pour les gens qui ne sont pas mes amis. Donc, vous voyez là, j'ai vraiment fait ça en cabochon. Vincent était en colère, il m'a traité de pee-wee deux lettres. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'est pas resté fâché le lendemain matin, tout était réglé. Plusieurs nouvelles dans le monde de la boxe. On a appris le décès de Marvin Hagler. Puis on vit vraiment dans un monde bizarre parce que là, ça a décollé sur Internet. Il y avait deux clans. Ceux qui disaient que Marvin Hagler, c'était la plus belle chose depuis le pain tranché. Puis ceux qui disaient que c'est la COVID qui a tué Marvin Hagler, le vaccin de la COVID. C'est tout pour ça. Il y aura un segment où je ferai un hommage à Marvin Hagler. Jessica McCaskill a conservé ses quatre ceintures contre Cecilia Bracus. Ça a bien sûr une incidence, on va en parler. Juan Francisco Estrada l'a remporté contre Roman Gonzalez, puis je commence à être vraiment blasé parce qu'il y a beaucoup de grands combats que tout ce qu'on se rappelle après, c'est les juges qui ont été mauvais parce que c'était un grand combat avec une petite performance des juges. On en reparlera. Raymond Ford s'est fait jouer un petit tour. Austin Amo William a envoyé Dennis Mamaboy Douglin à la retraite. Mamaboy qui est connu des Montréalais, on va vous en parler. David Benavidez a fait du David Benavidez. Il a dit aligner les 168, je vais les descendre un après l'autre. Et ça inclut Saúl Canelo Alvarez. On a eu des nouvelles de Batir Joukenbaev, 777. On a eu des nouvelles de David Lemieux et Simon Kane qui change d'entraîneur. On va faire la tournée à l'international et la fierté de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Ville-Sainte-Catherine et de Boston au Massachusetts. Vincent Morin viendra nous parler du gala du 16 mars prochain au Théâtre Plaza à Québec.
Tout le monde au Québec veut parler français. Pourquoi tu penses que quand je vais aux États-Unis, tout le monde va aux États-Unis, ils veulent acheter une pièce américaine, ça leur coûte une pièce et 34 canadiennes. Pourquoi tu penses, Tarzan?
Si c'était juste de moi, je me casserais pas le bicycle bien bien longtemps, puis je mettrais Paul Leduc, ministre des Finances. C'est sûr, le problème, c'est qu'il est décédé. Mais sinon, il aurait fait un bon ministre des Finances. Je veux vous parler d'un dossier qui, moi, m'a mis la puce à l'oreille. Batir Joukenbaev. Et ça, là, moi, je suis toujours curieux. Okay? Quand qu'un boxeur québécois tourne le dos à son promoteur, s'en va vivre le rêve américain en pensant que tout est mieux là-bas, d'expérience, je vous dis, ça fonctionne à merveille tant que tu perds pas un combat. La journée que tu perds un combat, le promoteur américain va te jeter à la rue comme un vieux barbecue qui allume plus, ok? Versus ton promoteur québécois qui t'a fait confiance, qui t'a aimé, lui, là, il va te regarder perdre, perdre, perdre et perdre, puis il va te dire, on va te reconstruire, on a des cartes au casino, on a des cartes à Shawinigan, on t'aime, on va te bercer, on va te donner toutes les chances. C'est le danger d'aller aux États-Unis d'Amérique. Et là, Batir, qui est parti avec Rick Merrigan, avec Manny Robble Jr., qui d'ailleurs l'a emporté hier avec Terrell Gaucha sur Lamonte Clark. Jamonte Clark, je pense. Fait que ça fait que Batir, là, on va revenir à nos moutons. À la IBF, chez les 140 livres, le champion du monde est Josh Ramirez. Son prochain combat en est un d'unification contre José Ramirez. Josh Taylor, champion de la IBF. Son prochain combat en est un d'unification contre le champion WBC, WBO, José Ramirez. Taylor est aussi champion d'une version XYZ à la WBA. Donc, on va probablement nous patenter une unification complète des 140 livres. Ce qui est intéressant avec l'unification complète, c'est que le champion ne peut pas conserver toutes les ceintures et où on est le plus rigoureux, c'est à la IBF. C'est assez simple, ok? J'ai connu 25, on n'ambitionnera pas, là. J'ai connu 8 champions unifiés dans ma vie. Les 8 ont dû abandonner le titre IBF avant d'abandonner un des 3 autres titres. On se rappelle même Tyson Fury, après Klitschko, avait déclaré « Ah oui, ils m'ont demandé de rendre la IBF parce que c'est pas vrai que je vais affronter Prince Charles Martin dans les 3 prochaines semaines. Mais je m'en fous, ils viendront chercher des vidanges parce que c'est ça qu'elle vaut leur ceinture. Tu sais, des fois, ça laisse un peu d'amertume. » Et là, Liane Parot est troisième, Soja John Ergachev est quatrième. Eux, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas participer au tournoi. Et la IBF, ce qui est intéressant, c'est que le 1 et 2 est vacant. mais c'est impossible de devenir aspirant numéro 1 ou 2 de la IBF sans avoir battu un autre adversaire dans le top 15. Vous voyez, eux, ils ont des règles rigoureuses. Donc, ce qui est sur la table, c'est que Lewis Ritson affronterait Jeremiah Ponce pour le rôle d'aspirant numéro 1. Batyr Jukanbayev affronterait Subriel Mathias pour le rôle d'aspirant numéro 2. La même soirée que le combat entre Taylor et Ramirez. Ensuite, les deux gagnants s'affrontent et peut-être que tu peux devenir champion de la IBF sans boxer parce que ils vont te donner le titre parce que Taylor ne sera pas dans les temps. Peut-être qu'ils vont te demander d'affronter Liam Paro ou quelqu'un d'autre. Mais on peut penser que le gagnant du tournoi a seulement à attendre puis voir la ceinture par la malle parce que le champion sera pas capable de la défendre à temps. Ça fait aussi partie de la boxe. Se placer dans les classements, attendre et collecter un rôle de champion intérim qui est ensuite propulsé au champion régulier. Si vous pensez que les championnats du monde se gagnent entre les cadres, vous êtes très mêlés. Ça se gagne dans les... c'est la politique autour, puis les patentes, puis qui est capable de se placer aspirant, puis qui a acheté assez de ceintures. J'ai l'air de quelqu'un qui aime pas la boxe, et j'adore la boxe, mais c'est comme quand t'es marié depuis longtemps, t'adores ta femme, elle a quand même quelques petits défauts. Je dis ça, mais j'ai jamais été marié, là. Je devrais arrêter avec mes commentaires matrimoniales, parce que comme vous le savez, est en roue. C'est assez tranquille. David Lemieux était supposé affronter Robert Talarek. Et là, dans un concours, comme dirait mon oncle, ce gars-là était tellement pas chanceux. La seule affaire qu'il gagnait, c'était des concours de circonstances. Fait que David Lemieux était supposé affronter Robert Talarek. Là, Talarek il a pris son téléphone, okay, puis il baragouine l'anglais. Puis là, il a dit « Hi, Anthony DeCarry. My name is Robert Talarek. » Puis là, il a dit, c'est quoi les lois au Canada, finalement? Là, s'entonner, il a dit, eh man, faut que t'arrives 5 jours en avance, tu restes 7, 14 jours, tu pars dans 3 semaines, tu restes enfermé dans ton hôtel, t'as même pas le droit de la regarder par la fenêtre, puis si le gars te voit, tu perds ta bourse, tu sais. Fait que là, Robert Talarek, il a dit, ouais, c'est moi, j'ai une job de jour, tu sais. Puis je pensais pas être obligé de prendre 3 semaines de congé sans solde. Fait que finalement, je vais rester chez nous. Fait que là, ils ont appelé Stéphane Loyer, mais Stéphane Loyer en a vu d'autres. Hein. C'est tout de suite tourné en Espagne. Il est allé nous chercher Ronnie Landeta, un boxeur de 38 ans. Et là, vous avez vu, les amis, là, les classiques de promoteurs. On est chanceux dans notre malchance parce que c'est un adversaire qui est meilleur que celui à la base. Ça... un jour, là, quand je vais être promoteur, je vais vous faire les mêmes classiques, puis vous allez vous rendre compte d'absolument rien. C'est des trucs de promoteur. Un gars qui a 3 défaites, jamais été passé KO. Il a affronté Robert Krasniski, un gars bien connu chez les 168 livres. Il a perdu une majority decision contre Aslambek. Pas Arslanbek, mais Aslambek Idijov, un russe, et récemment, il a fait la limite avec le champion français Kevin Lele Sadjo. Donc, bon, ça va être intéressant de voir si le mieux va donner le premier à le finir, mais tu sais, pour moi, ça c'est le genre de boxeur qu'on connaît déjà leurs limites, là. Quand il va voir que ça va faire mal, il va se mettre en mode survie. Du côté de Timon Kane, il était supposé affronter Stan Surmak. Ok, Surmak, t'allais passer ses tests. Le cardiologue, il l'a rappelé, puis il a dit, toi, mon gars, tu ne boxes pas. Ton cœur n'est plus le même que quand tu avais 7 ans. Fait que là, c'est la fin pour Stan Surmak. On s'est reviré, puis on est allé chercher un autre boxeur de 38 ans. Ok, c'est le mot-clé, 38 ans. De New Rochelle, New York, 6 pieds 3, 200 quelques livres. Don Hansworth. Don Hansworth, là, c'est bien simple, ok. il bat des gars avec des fiches déficitaires, puis il perd contre des aspirants mondiaux, tu sais. Il a été arrêté au premier par Guido Vianello. À son dernier combat, a perdu unanimous contre Del Long. Del Long, un gars de 6 victoires, 6 défaites. Il l'avait déjà battu, sont devenus 1-1. Il a perdu contre Brian Jennings, contre Zhai Zhang. Lui, c'est simple, là. Il perd rapidement contre l'élite ou il bat des gars qui ont des fiches ben ordinaires. Ça va permettre, une fois de plus, d'identifier où est Simon Cain dans l'organigramme de la boxe professionnelle. Des adversaires de remplacement, somme toute, bien corrects à 5 semaines du gala. Je ne m'en plains pas.
Tout comme Monsieur Patate, au resto-bar le coin du métro, nos ailes de poulet sont non-genrées.
Bon, là, je devais diffuser une entrevue avec Vincent Morin, mais Vincent, c'est moi qui l'ai appelé à la dernière minute, puis je l'ai dérangé alors qu'il est au gymnase. Je n'ai rien d'écouter le son, c'est pas terrible, mais je vous ai extrait les meilleurs moments. On va essayer de les écouter, mais au lieu que je vous passe l'intégrale de 20 minutes, je vais aller chercher les 5-6 minutes qui s'écoutent. Là. Donc, préparez-vous, voici l'extrait numéro 1.
As-tu été surpris d'entendre certains journalistes dire que ce combat-là n'aurait pas été autorisé dans d'autres moments? Moi, je vais dire mon opinion là-dessus. Oui, c'est un combat qui peut paraître inégal, mais on a une bonne régie au Québec. On a des arbitres qui sont conscients un peu de d'où viennent les deux boxeurs. Pensez pas que, tu sais, si Oscar domine trop, pensez pas qu'ils vont il va frapper à deux mains pendant quatre rounds. Là, le combat, si jamais il y a un danger, le combat va être arrêté.
Oui, puis, tu sais, faut pas oublier une chose. J'ai lu tout ce qui s'est dit. Peut-être un peu de favoritisme dans ce qui s'est écrit aussi. On va être honnête. Le premier combat s'est terminé par décision partagée. Puis les deux gars sont inactifs. C'est pas un gars qui est inactif. Oscar, c'est pas comme s'il avait boxé le mois passé. Là. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas boxé non plus. Donc, si le premier combat était pratiquement égal puis que les deux gars sont inactifs, je veux dire, pour moi, c'est un combat qui fait du sens. Tu sais, on est à court d'options en temps de pandémie présentement. Là. Je veux dire, on regarde à gauche, à droite. On essayait sur notre carte. On a seulement des boxeurs qui sont au Canada. Puis c'était ça le mandat. Puis honnêtement, c'est mission accomplie pour le moment. Puis ça n'a pas été facile. Tu sais, ça coule pas les rues des gars qui veulent affronter des Patrice Vanier, des Oscar Rivas. Même Sébastien Bouchard qui est rendu avec une bonne fiche, même si c'est blessé son dernier combat. Tu sais, c'est des gars avec des grosses fiches. C'est pas tout le monde qui veut les affronter déjà en partant. Donc, quand on ajoute là-dessus la clause de 14 jours de confinement, c'est très, très difficile de trouver des adversaires.
Dans cette autre partie de l'entrevue, je demande à Vincent Morin de nous entretenir sur le combat entre Francis Charbonneau et Alexandre Roberge, tout en ricochant vers Alex Paulé.
T'as pas besoin de deux champions du monde pour faire un bon combat de boxe. Ça te prend deux gars qui veulent gagner, qui veulent s'affronter, puis qui sont du même niveau. C'est exactement ce qu'on a dans ce combat-là. C'est un bon combat local entre deux gars. C'est qu'ils font ça à temps partiel, on va se le dire, mais c'est deux gars qui ont du chien, deux gars qui sont forts physiquement, puis c'est deux gars qui vont vraiment essayer de gagner. Là. Ça va être tout un spectacle. Les deux gars se narrent sur les réseaux sociaux présentement. Ça va amener quelque chose. Ce combat-là va mettre le ton.
Alex Beaulé, là, je vais te parler de lui. Lui, là, il a des enclumes dans les deux mains. Okay?
Oui, il cogne. Il cogne vraiment solidement.
Il a quel âge, Alex Beaulé?
Alexandre Boulay, il est quand même pas si vieux que ça. Non, j'ai pas son âge pour rester avec moi.
Je veux vérifier une rumeur qui court dans la rue avec toi. Alex Boulay veut pas perdre son temps. Ça a l'air qu'il était prêt à prendre Thierry Ozias direct pour montrer son niveau de un peu de courage. Puis là, finalement, il va affronter Nick Nakarato.
Ouais, exact. Alex Beaulé recule pas devant personne. T'sais, honnêtement, son premier combat aussi, ça, il y a un adversaire de dernière minute, un gars du Mexique, n'importe quand. Il a une mentalité comme ça, il vient du monde des arts martiaux mixtes. À la base, c'était un poids lourd quand il a commencé en arts martiaux mixtes amateurs, il assommait tout le monde. Il descend de catégorie. On va voir ce combat-là. C'est sur les cruiserweight, là, sur les légers. Cogne vraiment fort. Mais là, il commence à avoir une technique de boxe un peu plus raffinée. Il travaille avec Marc-André Gauthier, puis partenaire d'entraînement aussi pour Alexis Barrière. Je pense qu'on va voir des belles choses. Puis son adversaire, c'est pas le dernier vu. Ce qui est intéressant, tu parlais de combats 50-50, des combats équilibrés. Ben, les deux gars ont un combat de boxe, puis les deux gars ont 6 combats d'arts martiaux mixtes professionnels. Donc, on peut pas avoir plus équilibré que ça, là. Ils sont exactement au même niveau, Nakarato puis Bolé. Nakarato, on a pu le voir chez TKO MMA. Il donnait des bonnes bagarres. C'est un gars solide, un gars agressif. C'est deux gars qui cognent, puis deux gars qui ont un bon menton. Donc, je m'attends à quelque chose d'intéressant, là. Ça va être un feu d'artifice, ce combat-là. C'est sûr.
Et Bolé, là, le seul combat que je l'ai vu, tu sais, le show commençait, mettons, à être plus tranquille. La soirée avançait. Quand ils ont lâché Alex Bolé, hey, le public a levé, là, le plafond s'est mis à vibrer. C'est un gars qui a l'air excessivement populaire dans sa communauté. C'est un peu comme quand Vincent Tremblay retourne à Blainville. Là, le public était au rendez-vous.
Légère mise en contexte, dans le Journal de Montréal de cette semaine, Régent Tremblay dit que l'adversaire de Yann Pellerin, Marco Parente, avec une fiche de 1 victoire, 4 défaites et 3 nuls, a été trouvé par Vincent Morin derrière une canne de bine. Il faut savoir que Parente a jamais protégé sa fiche. Il a affronté Jimmy Ray Thompson, combat nul, le frère de Jesse Ross Thompson. Il a affronté Terry Ozias, il a battu Danick Croteau, Tommy Hull, et là il revient contre Yann Pellerin. Il fait partie de ces Mexicains qui ont causé du trouble à tout le monde, perdu beaucoup de split ou de majority decision, mais qui n'est pas protégé par un promoteur. Des propos bien injustes, j'en parle avec Vincent Morin.
Yann Pellerin oui. Contre Marco Parente. Puis, tu sais, je vais être honnête, là, je vais te dire, moi, je lis le journaux, je lis tout. J'ai trouvé injuste, même que ton nom s'est ramassé dans le journal, Marco Parente trouvé derrière une canne de bine d'un dépotoir, là, j'ai trouvé que c'était injuste. Je l'ai vu contre Jimmy Ray Thompson. C'est peut-être le problème des gens qui ne veulent pas aller plus loin que BoxRec. Et BoxRec, c'est une chose. Le test de l'œil, c'est une autre chose. Yann Pellerin okay. Est dans un combat contre Marco Parente.
Il y a deux choses à retenir de ça. Je suis fâché contre les gens parce qu'il a dit ça. Trouver un gars derrière une canne de bine. OK, il y a une fiche de 1 victoire, 4 défaites, 3 nuls. Mais tu regardes qui il a affronté. Là-dessus, il y a Richard Riviera, le monsieur Popeye, qui est 19-0.
Oui, c'était la fiche à Lafrenière après 6 combats.
Écoute, il y a une victoire sur Danick Croteau. Il a fait match nul avec Jimmy Ray Thompson. Il a donné un combat d'enfer à Tommy Hull et à Terry Ozias. On l'a vu en action. Le gars, c'est un troublemaker. Il donne du trouble à tout le monde. Fait que je m'attends qu'il va donner la même chose à Yann Pellerin. Tu sais, honnêtement, j'ai trouvé ça cheap shot de la part de Régent. Puis honnêtement, s'il y a quelque chose à me dire, il me le dira personnellement, si c'est une attaque personnelle ou quoi que ce soit. Mais vous venez me parler directement.
Ça, j'ai trouvé capable ça. De te défendre.
Parce que si je travaillais pour Eye of the Tiger, je suis convaincu qu'il ne m'aurait pas lancé cette flèche-là.
Ici, je demande à Vincent Morin de me parler de Alexis Barrière qui fera ses débuts professionnels contre Colin Sangster, un boxeur de 2-0. Barrière est en copromotion avec New Era et Groupe Yvon Michel. Et tant qu'à y être, je fais un petit détour sur Patrice Volny qui affrontera James Trotter.
Pour le moment, il y a un premier vrai test. On n'a pas fait venir d'Hongrois comme ou de gars overmatch pour lui. On a vraiment fait venir un premier test parce qu'on voulait voir ce qu'il valait. Puis honnêtement, je pense qu'il va vraiment répondre aux questions. Puis je m'attends à un bon combat de sa part. Mais vous allez voir, il est très, très habile. C'est surprenant de voir un gars de ce gabarit-là être capable de bouger comme ça. Vous allez voir, ça va être assez surprenant.
Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, puis je vais pas le nommer, là. C'est pas toi, mais tu sais, je pose des questions à tellement de monde que c'était le coup. Simon Kane en fait pas des cauchemars, mais il est pas capable de le solutionner en gymnase, justement par sa vitesse qui s'apparente quasiment un poids moyen de 225 livres. Pour un matchmaker comme toi, moi, j'ai des questions, je suis content de t'avoir. Quand on book un gars comme Patrice Volny qui est listé pour un combat d'aspirant numéro 1, est-ce qu'on est comme en constante relation avec le gérant du boxeur parce que on veut pas le perdre, ce combat d'aspirant numéro 1-là? Tu sais, tu peux pas arriver avec... t'arrives avec un certain niveau, j'imagine. On veut, sans dire protéger, c'est un peu protéger l'opportunité.
Il a protégé puis protégé, en fait. Tout ce qu'on avait au Canada pour Patrice Vanier a été refusé. On a essayé tout le monde. On a regardé tout ce qui se faisait au Canada. Patrice Vanier, c'est un calibre mondial. Donc, on voulait pas un adversaire, faible. C'était pas ça le but. C'est que tout le monde a refusé. On a tout essayé. Des Stuart McLellan, des gars avec les meilleures fiches possibles, des X-Men, on a tout essayé. Personne voulait affronter Patrice Vanier. Donc, le seul qui s'est porté volontaire, c'était James Trotter. James Trotter, lui, écoute, il y a eu un premier combat entre les deux, c'était à Toronto, en sous-carte de Stevenson Jack, si je me rappelle bien. Puis il s'est fait pincer juste comme la cloche finissait. Donc, Trotter, il est encore fâché de ça, puis Trotter, il est encore convaincu que c'est un arrêt prématuré, puis qu'il pourrait arrêter Patrice Vanier. Donc,
tu sais, Trotter, c'est vraiment l'expression « il vit, puis il périt par l'épée ». Tu sais, moi, la première fois qu'on m'a allumé un fort sur Trotter, je me rappelle, il avait knocké Walid Michet dès le combat partait. Tu sais, puis après ça, il est tombé, mais on l'a vu aussi contre Albert Anonulos être durable, aller chercher un match nul. On peut s'attendre un peu à tout de James.
Tout peut arriver.
Cogne.
C'est un peu comme une montagne russe avec James Trotter. On ne sait jamais quoi s'attendre. Mais tu sais, tu regardes sa fiche, 10-5-2, il y a 10 knockouts dans 10 victoires. Le gars, il cogne vraiment. C'est juste qu'il est tellement kamikaze, des fois, il saute un peu dans ses coups. C'est ce qui est arrivé la dernière fois contre Patrice.
Là, ce que vous entendrez pas, c'est le reste de l'entrevue. Vincent est dans son bureau, il y a de la musique rock un peu partout dans le gymnase, on est vraiment à Boston. Je demande à Vincent de nous parler de la couverture médiatique de la boxe à Boston. Il dit que c'est très difficile parce que tu es derrière les Celtics, les Patriots, les Bruins et les Red Sox, plus le sport universitaire, donc... la boxe prend les miettes qui restent après que tout le monde se soit servi au buffet médiatique, mais qu'ils réussissent à avoir un peu d'exposure dans le Boston Globe quand il y a des grands combats comme Ronald Ellis qui était en championnat du monde contre David Benavidez. Merci à Vincent Morin et la prochaine fois, je vais te texter avant de t'appeler dans tes locaux.
Au lendemain du combat entre Canelo Alvarez et Avni Yedirim, il va y avoir un appel d'offres pour aller chercher un nouvel aspirant obligatoire. Est-ce que David, tu es prêt à accepter un combat au lendemain de Robert Alaric contre Anthony Durell ou Daniel Jacob pour te placer aspirant obligatoire à la WBC?
Absolument.
Quand tu poses une question dans une entrevue, tu n'es pas supposé poser 163 mots versus 1. C'était ma meilleure question d'entrevue de l'histoire. On va faire le tour du monde des résultats. Avant, j'aimais pas ça faire ça, puis finalement, c'est moins pire que je pensais. Je trouve ça quand même quasiment un peu le fun. En Australie, OK. Blake Caparello a perdu une décision unanime contre Faris Chevalier. Caparello, qui est bien connu, sert souvent de partenaire d'entraînement au Québec, et Michael Zerafa, ok, Pretty Boy Michael Zerafa, a affronté Anthony Mundine. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Anthony Mundine, il a plus rapport, là, tu sais, il est rendu à 46 ans. Mais lui, là, c'était une super vedette du monde du rugby. Puis là-bas, Anthony Mundine, pour le rugby, c'est un peu comme Guy Lafleur pour le Québec. Tu sais, probablement que si Guy Lafleur faisait un combat de boxe, malgré ses 67 ans, il y a du monde qui voudrait le voir juste parce que c'est Guy Lafleur. Mais c'est un peu ce qui se passe avec Anthony Mundine, qui là a 48 victoires, 10 défaites, devra penser à accrocher ses gants parce que là, les gars, tu sais, il fait un rond. Hey, Anthony, probablement qu'il nous écoute pas, il va falloir que ça cesse, là. Les tirages de carrière. Sinon, il y a eu plusieurs autres cartes en fin de semaine. Je veux saluer un homme qui est sur Twitter. Vous irez voir ça, Tommy Boxeo. Lui, j'ai découvert ça. Il met le calendrier de tous les galas disponibles via streaming ou via des pay-per-view, ce qu'on appelle sur Internet, là, que tu payes une couple de piastres. Mais, hey, je vous le dis,
un travail de moine. OK? Moi, je perdrais patience bien avant à mettre tous ces liens puis ces combats. Eva Brotnicka, qui est une aspirante mondiale chez les 140 livres, a battu Milena Koleva en Pologne. Non, j'ai pas plus de commentaires que ça. Je me suis endormi tôt hier, fait que je vais vous dire la vérité, là, j'ai pas vu la plupart des combats, mais on est juste un expert pour vous lire BoxRec. Désolé, j'ai envie de m'étouffer. David Benavidez a battu Ronald Ellis au 11e après le combat. David Benavidez a dit enligner les 168, je vais vous les geler un après l'autre. David Benavidez a les mains les plus rapides. C'est peut-être le boxeur le plus rapide livre pour livre. Isaac Cruz a gagné la demi-finale contre José Matias Romero. Jamonte Clark, qui est un boxeur en montée, s'est fait jouer un tour par Terrell Gaucha, entraîné par Manny Robles, qui s'occupe maintenant de bâtir Jukan Bayev. Et Kudratilo Abdoukakorov, c'est dur à prononcer, mais on n'aura pas le choix de le prononcer aux deux semaines bientôt, a battu Javier Flores. Votre préféré, Tommy Carpentier, a battu Mickey Scarborough, un boxeur de 6-13 à Boston. Juan Francisco Estrada a vaincu Roman Gonzalez dans un grand combat qui, malheureusement, tout le monde avait Chocolatito gagnant, Estrada gagné. Les juges nous ont joué un petit tour. Hiroto Kiyokushi a couché. Kiyokushi a couché Axel Aragon Vera. Victoire chez les poids minimum. Puis ça, je vais vous dire, ça c'était drôle, ok, parce que, ben c'était drôle. Vega, il se pète la main en frappant sur Kiyokushi. Il recule. Il pleure, là. Il pleure tellement que ça lui fait mal. Et là, Kiyokushi, il regarde l'arbitre. Il regarde son adversaire qui est plié aux deux tiers parce qu'il a mal. Et il swing un coup de poing direct sa main brisée pour être sûr que son adversaire veut l'abandonner. J'ai pas trouvé ça chic, Hiroto. Jessica McCaskill, surprenamment, gagne tous les rounds contre Cecilia Bracke. Je m'excuse à mon ami Pierre-Marc Fréchette à qui j'avais conseillé de gager sur Bracke. Si t'as des problèmes d'argent, appelle-moi, je vais te faire un virement. Victoire de Jessica McCaskill qui a une cible dans le dos. Mark Taffet était déjà attagué Cecilia Bracus et Cathy Taylor comme prochain adversaire. Je crois pas que Bracus va descendre à 147. Je crois pas que McCaskill va vouloir offrir tout de suite un combat à Taylor qui l'a déjà battu. Mais moi je vous le dis, si vous pensez qu'Yvon Michel dort son 8 heures dans la nuit d'hier, vous vous trompez. Il était déjà en train de vérifier c'est qui le promoteur, c'est qui le gérant de McCaskill. Puis McCaskill, imaginez, c'est une femme. 10 victoires, 2 défaites. Elle a seulement perdu contre Cathy Taylor et contre Katiana Fisher en début de carrière. Championne unifiée des 147. 2 victoires sur Cecilia Bracus, qui est the first lady of boxing. Lundi matin, elle poinçonne sa carte à travail. Elle travaille encore de 9 à 5 du lundi au vendredi. C'est à ce point l'injustice entre les bourses en boxe féminine puis les bourses en boxe masculine. Mais donc, Yvon Michel, avec Lou DiBella, avec Marie-Ève Dicker, pourrait reculer un petit montant d'argent, puis McCaskill n'aura pas le choix de dire oui à affronter Dicker. Et si Clarissa Shields avait boxé hier contre une des deux filles ou contre les deux filles une après l'autre, elle les battait. Shields aurait pu battre les deux en même temps ou les deux une après l'autre. Et Marie-Ève Dicker aurait pu battre n'importe quelle des deux. C'est pour vous donner une idée. Austin Amo-William, chez les poids moyens, il est excellent, c'est tout un boxeur. Hier, il y avait deux prospects, okay, sur la même carte. Austin William a fait exploser sa valeur chez les 160. Il a envoyé Dennis Mamaboy Doglin, un gaucher qui sert de partenaire d'entraînement à David Lemieux, à la retraite.
et Raymond Ford a fait une nulle avec Aaron Perez. Vous voyez, Austin Williams, flèche vers le haut, Raymond Ford, flèche vers le bas. Suleiman Sissoko a arrêté Daniel Echevarria au 6e ronde. Suleiman est là pour de vrai. Mesdames et messieurs, Anna Rankin qui pourrait être dans les adversaires pour Marie-Ève Dicker, une partenaire d'entraînement à Clarissa Shields, 9 victoires, 5 défaites. Mais des victoires survenues contre l'élite. Alicia Napoléon, qui était très 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 populaire à New York, a décidé de mettre sa carrière sur pause pour s'offrir les joies de la maternité. Alicia Napoléon, on va la revoir un jour. Elle a une défaite contre Clarissa Shields, contre Patricia Bergul, qui est aussi dans les noms qu'on pourrait voir contre Marie-Ève Dicker. Et elle a une défaite contre Savannah Marshall, qu'on devrait voir contre Clarissa Shields. Donc, Anna Rankin, très très haut niveau, une Britannique de 30 ans, assurément dans les mêmes pourparlers que Marie-Ève Dicker dans les prochaines semaines. Et pour faire plaisir à mon ami Martine Vallière-Bisson, je vais vous parler de Ebony Bridge qui a gagné en Australie et je suis encore traumatisé par l'habit qu'elle portait à la pesée officielle. Si vous voulez vous gâter l'œil, Twitter, Instagram et Ebony Bridge. Martine Vallière-Bisson, ma boxeuse préférée. C'est Ebony Bridge est ma préférée à l'œil. Martine Vallière-Brisson et Martine Vallière-Bisson et non pas Maxime Vallière-Brisson. Martine Vallière-Bisson, important de le répéter, ça rentre dans votre tête. Ma boxeuse préférée, elle, c'est ma boxeuse préférée. On a une connexion mentale, tandis qu'avec Ebony Bridge, c'est une autre sorte de connexion. Martine Vallière-Bisson, j'ai nommé son nom à Yvon Michel. Yvon Michel est venu faire une heure avec moi puis Vincent sur Poulain Tremblay de podcast. Faut que je vous en parle aussi bien le faire là. On a parlé à Yvon Michel. J'ai parlé, moi, puis tu sais, j'étais tout content. Là, j'avais préparé des phrases comme pour qu'il tombe dans mes pièges d'intervieweur vedette. Fait que je dis à Yvon Michel, rendu à votre âge, monsieur Michel, je vous ai entendu en entrevue. Vous n'allez pas nécessairement aller chercher des prospects. Vous allez peut-être un peu plus travailler avec des gens que vous aimez, des bonnes personnes, des gens sympathiques, faire profiter de votre expérience. Puis la vie est belle, tu sais. Peut-être moins vous casser le bessic avec des Européens de l'Est qui ont tout gagné, mais qui arrivent ici avec énormément d'exigences, apprennent pas le français, puis ils se plaignent des fois. Ils sont plaignards. Ils vont. Je pensais l'avoir ramené dans mon piège. Pas en tout, il me dit. Pas non, non, ça prend un équilibre. On a deux Russes qui s'en viennent, du méga potentiel. 147 livres, un poids lourd. On va vous les présenter bientôt. En copromotion avec Dibella, moi ce que je pense, c'est que M. Dibella met beaucoup de dollars, mais Yvon avait le contact pour l'entraîneur international en Marc Ramsey. Puis peut-être que, tu sais, Makhmoudov et Beterbiev sont en paix. Avec Yvon Michel maintenant, même si Makhmoudov va signer ailleurs, puis Beterbiev est parti, t'es prêt à se battre. Fait que peut-être qu'un gars comme Beterbiev, avec du recul, il a dit à ces jeunes Russes-là, écoutez, monsieur Michel, oui, je l'ai quitté pour des top ranks qui étaient là, mais pour des gars comme vous, en début de carrière, monsieur Michel est capable de vous trouver des adversaires, capable de vous propulser. Lou Dibella est pas loin. Marc Ramsey est un excellent entraîneur. Beterbiev puis Makhmoudov peuvent le confirmer. Fait que peut-être qu'ils ont dit à ces jeunes-là, écoutez, vous avez Yvon Michel comme promoteur, c'est bon. C'est excellent d'avoir Marc Ramsey. Il fait bon vivre au Québec. Les gens sont gentils, sont beaux, sont fins. On peut dormir pendant le couvre-feu. Fait que j'ai l'impression que Beterbiev et Makhmoudov sont peut-être en train de devenir c'est quoi le mot que je cherche? Des ambassadeurs pour Montréal. Ensuite, j'ai demandé à Yvon Michel s'il pouvait avoir une carte entièrement féminine au Québec. Ben, il nous a dit oui, mesdames et messieurs. Lou DiBella a une entente avec UFC Fight Pass et il va avoir une carte par année entièrement féminine au Québec. C'est là que je lui ai dit, j'espère que tu vas garder une petite place pour mon ami Martine. Et là, on s'est parlé en privé. Là, si Martine était une action à la bourse, sa valeur est en hausse. Ensuite, il nous a annoncé qu'il allait avoir une entente. Il allait négocier cette semaine une entente avec les gens de TSN pour présenter de la boxe dans les 12 provinces canadiennes. On sait que TSN appartient à 30% à ESPN. ESPN a l'application ESPN+. Moi, je vous le dis, Yvon Michel, tu passes une heure avec, là. Il est motivant, il est positif. Après ça, c'est de voir les projets qui vont être menés à terme. Mais c'est le fun de le voir aussi motivé puis aussi en feu face au prochain mois. Puis sinon, c'est ça. Allez l'écouter, l'entrevue, là, est disponible sur Boxing Town de Québec. Je l'ai mis par après, tu sais, comme quoi, Vincent, je parle à toi, comme quoi, tout finit par s'arranger.
Puis premièrement, qu'est-ce que je veux dire? Si un de mes lutteurs arrivera à une poste de télévision, comme le monsieur journaliste est arrivé en pantalon court, des shorts, puis en running shoe, je l'enverrai chez eux. J'y prêterai pas de pantalon long, j'y dirai va-t'en chez vous.
Je voudrais profiter de la 41e minute pour vous dire à vos auditeurs que je vous aime. Parce que quand j'ai commencé à enregistrer le podcast, pour vrai, je pensais que j'étais sur mes derniers milles, puis j'étais sur le point d'appeler l'urgence tellement que je filais pas. Puis là, à force de vous parler, ça m'a changé d'idée et j'avais très bien, finalement, s'il y a quelqu'un qui veut venir courir un demi-marathon au Parc Maisonneuve, seulement m'écrire en privé. Parler des combats de la semaine prochaine, Karina Kopinska va affronter Kathleen Phelan. Kopinska est 13-36, ça me fait rire, là, je sais pas pourquoi je parle d'elle, 13-36-4, elle était venue à Repentigny affronter Lucia Larcinez et je peux vous jurer que c'était le combat de l'année au Québec, c'était la folie. Il avait fait une revanche après avec les deux mêmes filles au Bain Mathieu dans la seule carte que Ghislain Madouma a promoté de sa vie dans le fond du Bain Mathieu. Bain Mathieu, c'est un ancien bain public où le monde allait se laver à l'époque où les douches n'existent pas. Ils ont vidé le fond puis ils font des parties comme dans le fond de la piscine. Il y a une fois, là, j'ai tellement pris d'alcool, le 31 décembre, quand j'avais 20 ou 22 ans, on achetait des bouteilles de vodka, il y avait un party de fin d'année romain, ok? Puis, c'était tellement dévissant à face que le lendemain à midi, quand j'étais allé pour le jour de l'an, ma mère m'a regardé dans l'entrée et elle a dit « C'est pas vrai que tu vas être blanc comme un drap devant la famille, remonte en haut, ça n'a aucun bon sens. » Elle m'avait renvoyé dans mes appartements du deuxième. Aujourd'hui, je suis rendu assez tranquille. Donc, Karina Kopinska, on la salue. Merci d'être venue perdre au Québec. Après ça, on va se diriger sur ESPN+, où notre ami Arthur Beterbiev va affronter Adam Dane. Tout ce qu'on peut souhaiter à Beterbiev, c'est de s'en débarrasser rapidement et de passer à autre chose, mais de ne pas se blesser puis de passer à ce qu'on appellerait du momentum, de se battre régulièrement. Dans les autres combats à surveiller, à 168 livres, une éventuelle superstar. Azizbek Abdoukofurov va affronter Pavel Zilyakin, deux boxeurs invaincus. Et là, je vous le dis, Azizbek, le nom que je suis plus capable de vous prononcer, absolument. Vous mettez ça sur votre liste de méga prospects. Là, j'ai l'air fou, c'est parce que mon box-rec a fermé. Pendant que je vous parlais, c'est ça qui arrive quand les vieux ordinateurs. Sinon, le reste de la carte, je sais pas si on va être capable de tout voir, mais il y a Alexander Bespoutine, qui est un méga prospect à 147 livres. Il va affronter Maximiliano Ricardo Veron. Igor Mikhalkin, qu'on a connu ici, va affronter Denis Siariuk et il y a une tonne de prospects, je vais vous dire. Les Russes ne manquent pas de bons boxeurs. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant qu'Yvon nous a dit qu'elle allait ramener un lourd, on sait qu'Yvon puis Beterbiev, la chicane n'était pas pris. Beterbiev voulait juste aller chez Top Rank. Puis, ben, c'est étrange parce que Beterbiev a comme laissé les juges régler ça, mais il n'y a pas d'amertume face à Yvon Michel. Il y en a eu une soirée où il a dit à Makhmoudov de pas signer ici. Puis après ça, on dirait que ça s'est placé. Puis finalement, il n'y aurait pas de problème à boxer pour Yvon Michel. C'est juste que lui, il voulait pas se priver de Top Rank pour les années qui restent. Fait que je me demande si le prospect, c'est pas Vladimir Ivanov qui est sur la carte, un gars de 6 pieds 6, 3-0. Mais on verra. Hein? On verra en temps et lieu. J'aime pas ça attendre. Moi, quand il y a une grosse signature, j'aimerais ça qu'on me la donne tout de suite, puis qu'après ça, vous autres, vous l'appreniez plusieurs années plus tard. T'sais. Hervé Hubeau, qu'on a connu au Québec, va affronter Dusan Kristin, un boxeur de 8-12, sur la même carte. Il va avoir Jamie Quinn, qui a 7 victoires, 106 défaites. Des choses qu'on voit régulièrement en Allemagne. Ça fait un peu... le tour, il y a une bonne carte aussi en Angleterre présentée sur DAZN. Lawrence O'Cally qui va affronter Christophe Glowacki. O'Cally, c'est la grosse affaire. Il fait du rap aussi. Il a fait une toune de rap et c'est à vomir, mesdames et messieurs. Mais dans le ring, il est vraiment très bon. Chris Bilal Smith, un autre cruiserweight, va affronter Vasil Dukor. Anthony Fowler contre Jorge Forrieta. Puis Joe Cordina contre Farouk Kurbanov. Tu sais, je regarde les noms, je regarde les fiches des gars que je connais. Je vous le dis, DAZN, ils ont cette petite tendance-là à obliger les boxeurs à pas être ultra protégés. Tu sais, je vous dirais, les 4 Anglais en finale sont impliqués les 4 dans des bons combats. Glowacki peut assurément battre au collier. Bilal Smith devrait être correct, mais Fowler est impliqué dans un combat. Joe Cordina est impliqué dans un bon combat. Dormez pas sur ces cartes-là de DAZN. C'est réellement des bons combattants. Puis il y a un matchmaker qui fait bien sa job à quelque part parce que c'est toujours des combats chaudement disputés. On se dirige au Dickies Arena. Ça, c'est les souliers de skater à Fort Worth, Texas. Encore une fois sur DAZN en fin de journée où Virgil Ortiz Jr., le meilleur prospect au monde, va affronter Maurice Hooker. Et en demi-finale, Annabelle Ortiz contre Senesia Estrada pour les points poids minimum dans un combat pour la ceinture World de la WBA. Et là, je vous fais une annonce. Senesia Estrada est dangereuse, ok? C'est la fille de 105 livres qui peut vous fermer les deux yeux puis vous casser en mâchoire en un punch. Senesia Estrada me fait peur. Puis, je vous dirais que j'ai une confiance aveugle en Kim Clavel, mais je veux pas l'avoir contre Senesia Estrada, surnommée Super Bad. C'est une dangereuse. C'est elle qui avait complètement dévissé la Soccer Mom, S-O-C-C-E-R. Miranda Atkins, qui avait pris le combat à la dernière minute, avait même pas bougé de son coin. Elle avait eu peur. Ça avait duré 7 secondes. Ça avait pris l'ambulance. L'ambulance. C'est elle qui a dévissé Marlène Esparza, que vous avez vu en sous-carte de Marie-Ève Dicker contre Clarissa Shields. Senesia Estrada, tiens-toi loin de ma Kim Clavel, je t'en supplie parce que tu me fais réellement très peur. Alors, c'était pas mal l'épisode numéro 65, épisode où je l'ai commencé sur le point de mourir et que j'ai fini en très grande forme. Merci d'être là pour me permettre de parler de boxe. Je vous aime tous et chacun. Jamais je vais vous demander la moindre pièce sur Patreon. Jamais je vais vous demander rien. Si vous voulez me faire plaisir, vous me donnez 5 étoiles sur votre podcatcher favori et vous partagez sur vos médias sociaux. Vous en parlez à un ami, à un parent, à un voisin. Et j'espère que je vous ai diverti et que j'ai mis un sourire dans vos faces. Merci et à la prochaine.